On va aller à Paris pour parler avec Fabrice de Pierrebourg qui assiste à cette deuxième journée de ce méga procès des attentats de janvier 2015, des attentats d'Hypercacher, Charlie Hebdo, qui, on le rappelle, avait fait 17 morts. Alors, Fabrice, donc, peut-être nous faire un résumé là, de ce qui s'est dit depuis le début du procès.
Alors, hier, Paul, on est vite rentré dans le vif du sujet après l'appel, on va dire, des 300 témoins, experts, avocats, etc., avec la lecture par le président du tribunal de cette cour d'assises spéciale du rapport d'enquête, un document assez volumineux puisque ça a nécessité 4 heures de lecture. Ça a commencé vers 15 heures, ça s'est fini à 19h45. Pour respecter le planning, a dit le président, on n'a pas éteint les lumières à 17 heures. On a eu le droit à vraiment une reconstitution, Paul, quasi chirurgicale des 3 jours de terreur qui ont ensanglanté Paris en janvier 2015, mais aussi une revue de détail de toutes les charges retenues contre les 14 accusés, dont 11 sont présents seulement, il faut dire, dans des boxes blindées et vitrées. C'était l'occasion aussi de se pencher sur leur passé criminel, leur fréquentation, les liens qui ont existé entre les Kouachi et Koulibaly, les 3 terroristes impliqués, mais aussi leur implication dans la sphère djihadiste et leur contact avec la mouvance islamiste radicale. D'ailleurs, certains de ces personnages ont un mentor du trio, viendront témoigner plus tard à la barre dans les jours qui viennent. On a appris par exemple que ce sont des escroqueries et du trafic de produits contrefaits qui ont financé l'attentat de Charlie Hebdo. Koulibaly, l'auteur de l'attentat à l'Hypercacher, lui, a aussi donné un coup de pouce financier aux Kouachi grâce à des crédits qu'il avait obtenus avec des faux documents. Il a réussi comme ça, selon l'enquête, à récupérer près de 90 000 $. Alors si les 11 accusés présents ont écouté sans broncher ou parfois distraitement en regardant au sol cette longue lecture, le moment, Paul, a été vraiment éprouvant en revanche pour les survivants et les familles des victimes. La mère de Charb, qui était directeur de la rédaction de Charlie, dessinateur, qui a été assassiné le 7 janvier 2015, est sortie en larmes à un moment donné lorsque le président s'est trompé dans le prénom de son fils. Elle est sortie en pleurant en disant « c'est Stéphane, pas François ». Patrick Pelou, médecin urgentiste, qui était chroniqueur aussi à Charlie, l'a suivi peu après. Lassana Bati, qui était employé de l'Hypercacher, qu'on a surnommé le héros à l'époque, avait réussi à cacher plusieurs otages avant de s'enfuir et donner des infos aux policiers, a trouvé ça vraiment dur aussi de voir tous les 14 accusés en face de lui. Puis un autre moment de tension est survenu lorsque l'avocate du principal accusé, Ali Pollat, qui risque la perpétuité, s'est levée pour dire que même si elle compatissait avec les victimes, tout ça c'est de la faute des renseignements, des services de renseignement français. S'ils avaient fait leur travail, a-t-elle dit, cette souffrance ne serait jamais arrivée. Alors, allusion probable aussi au fait qu'on a appris que Saïd Kouachi avait été surveillé par les services antiterroristes jusqu'à 6 mois avant l'attaque à Charlie Hebdo, puis ça avait été suspendu. Ça a signalé, Paul, tout ça c'est vraiment intéressant. Il y a des psychologues qui sont mobilisés par une association d'aide aux victimes qui sont présents dans la salle d'audience pour les soutenir en cas de besoin, tous ces proches éprouvés par le procès.
Peut-être un mot sur le port du masque pour les accusés qui, paraît-il, provoquent certaines vagues.
Oh mon Dieu! Dans un tribunal, on peut penser que c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Puis on le voit depuis hier, ça crée vraiment un psychodrame. Ça suscite la grogne des avocats de la défense, mais aussi ceux des partis civils qui disent que finalement c'est contraire aux droits de la défense, entre autres, parce que ça rend aussi notamment difficile l'observation des réactions des accusés lorsqu'ils s'expriment, lorsqu'on les interroge. Le président a rappelé que c'est une mesure de santé publique obligatoire, même si c'est pénible, que ça complique l'audition et la compréhension, et on le voit sans arrêt d'ailleurs, mais il a dit ne pas vouloir que sa salle de cour devienne un cluster, comme on dit en France depuis un moment. Une célèbre avocate, Maître Coutempère, qui a défendu notamment le terroriste international Carlos dans le passé, a dit que, après avoir enlevé son masque, c'est une cour masquée, les avocats masqués, les accusés masqués. Qu'est-ce que ça donnera 50 ans dans une autre période de l'humanité? Parce que ce procès est filmé, et plus tard, certains pourront voir les images. Ce matin, le coup de théâtre, psychodrame bis, le président a annoncé qu'après les tractations pendant la soirée, les avocats et les accusés pourront enlever leur masque lorsqu'ils devront parler. Mais là, il y a un avocat de la défense, ça lui a pas plu s'élever, il a dit que c'était dangereux, et puis que ça pouvait compromettre le procès si jamais une contamination avait lieu. On en est là.
On va suivre ça avec intérêt. Merci, Fabrice de Pierrebourg, en direct de Paris.